Accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, le droit de choisir à quel moment mourir, celui de partir dignement, l'euthanasie divise les Européens. Si des pays comme la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont légalisé la mort médicalement assistée, en Italie, l'euthanasie est passible de 5 à 12 ans de prison. N'empêche, dans ce pays très catholique, le débat était récemment relancé. Au mois de septembre, une pétition de plus d'un million de signatures a été déposée au Parlement italien afin de demander un référendum sur l'euthanasie légale. Dans la foulée, l'eurodéputée néerlandaise démocrate Sophie Hintveld a adressé une lettre à la Commission européenne afin que l'UE se positionne sur ce sujet sur lequel elle est pour l'heure restée muette. Cécile Debarge.
Objet de la lettre, évoquer le thème crucial des traitements de fin de vie. Les destinataires, le commissaire européen pour la santé et la présidente de la commission, Ursula von der Leyen. 6 eurodéputés du groupe parlementaire démocrate Renew ont appelé l'institution à se mobiliser pour garantir le droit à l'autodétermination pour tous les citoyens européens. Parmi eux, la néerlandaise Sophie Hintveld.
Ce n'est pas parce que cette pratique est illégale dans certains pays que cela n'existe pas. Mais l'euthanasie est réalisée dans des circonstances opaques ou bien sans pouvoir véritablement vérifier ce qui se fait. C'est difficile aussi pour les médecins qui risquent d'être condamnés.
Depuis une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme en 2012, la question de l'euthanasie est une compétence nationale. Les eurodéputés s'appuient toutefois sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à une vie privée et donc, selon leur interprétation, à choisir librement leur fin de vie. L'eurodéputée démocrate Sophie Hintveld prend l'exemple de son pays natal, les Pays-Bas, où une loi de 2001 autorise l'euthanasie avec des conditions strictes.
Au final, le nombre de cas a baissé. Pour beaucoup de personnes, la simple idée qu'elles puissent choisir, qu'elles puissent garder le contrôle était le plus important. Ces personnes ne voulaient pas nécessairement avoir recours à l'euthanasie, mais l'idée qu'elles puissent choisir leur moment, choisir la façon dont elles aimeraient mourir, ça a donné à tous une grande tranquillité d'esprit.
Ce que l'eurodéputé demande, c'est qu'un débat éclairé et apaisé puisse avoir lieu à échelle européenne. Il y a quelques années, invitée sur un plateau de télévision en Italie, où l'euthanasie est formellement interdite, elle avait reçu de nombreux témoignages, dont un qui l'a particulièrement marquée.
C'était une mère qui m'a écrit. Sa fille était malade et souffrait énormément. C'était très douloureux et incurable. Et elle me disait qu'elle n'était pas en faveur de l'euthanasie, mais qu'elle était heureuse que je puisse en parler si sereinement.
Les signataires de la lettre demandent notamment qu'une enquête soit réalisée dans tous les pays de l'Union européenne pour avoir une idée claire de la situation. Qu'un dialogue avec la société civile soit ouvert ou encore que les patients européens qui souhaitent accéder à des traitements de fin de vie puissent se rendre librement dans le pays de leur choix.
C'est un débat qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas comme si on avait un débat, on en parle et c'est bon, le problème est réglé. Il y a toujours de nouvelles questions qui se posent. Par exemple, celles des personnes âgées qui sentent qu'elles sont arrivées au bout de leur vie. Elles ne souffrent d'aucune maladie incurable, ne sont pas soumises à de grandes souffrances. Et pourtant, elles ne veulent plus vivre.
Pour ces eurodéputés, c'est un grand débat autour de la dignité dans la fin de vie qu'il faut ouvrir. Une question qui va se faire de plus en plus pressante au vu du vieillissement de la population européenne.
Et le Portugal a failli devenir l'un des pays les plus progressistes sur la question de la fin de vie. Le 5 novembre dernier, les députés portugais ont adopté pour la deuxième fois une loi autorisant la mort médicalement assistée. C'était le deuxième acte après un premier refus, car la Cour constitutionnelle avait demandé aux députés de revoir leur copie. Mais hier, troisième acte, cette fois c'est le président du pays, Marcelo Rebelo de Sousa, conservateur et fervent catholique, qui a usé de son droit de veto pour retoquer le texte de loi. Retour sur ce feuilleton législatif avec Marilyn Darcy.
Le premier texte de loi sur l'euthanasie adopté en janvier 2021 avait été précédé de longs mois de procédures et débats marqués par les tentatives des opposants d'organiser un référendum sur la question. Face aux socialistes au pouvoir, déterminés à faire passer le texte, les mouvements pro-vie soutenus par l'Église catholique estimaient alors qu'en absence de débat dans la société portugaise, le législateur se devait de consulter le peuple. Au final, c'est bel et bien le Parlement qui s'est prononcé en adoptant le texte. Mais la loi sur la mort médicalement assistée a connu ensuite un nouveau rebondissement. En effet, le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, un conservateur catholique assumé, fraîchement réélu haut la main, avait alors décidé d'envoyer le texte de loi devant les juges de la Cour constitutionnelle. 7 des 12 juges de la Cour avaient estimé que les termes de « lésion définitive d'extrême gravité » retenus pour justifier la mort médicalement assistée étaient trop vagues. Retour à la case départ, donc, et ces derniers mois, la copie a été révisée, les termes précisés. Le 5 novembre dernier, la majorité des députés, dont 13 issus du parti de droite PSD du président, ont approuvé le nouveau texte. Mais l'euthanasie, ce ne sera pas appliqué maintenant. Le chef de l'État vient d'user à nouveau de son droit de veto. Il demande de nouvelles précisions. Le texte est donc renvoyé devant les députés qui ne pourront l'examiner qu'après les élections législatives du 30 janvier 2022.
Et en France aussi, la question divise. En avril dernier, une proposition de loi pour un droit à une fin de vie libre et choisie a bien été déposée devant les députés. Mais 4000 amendements plus tard, le texte n'a pas été adopté. Et avec l'élection présidentielle qui se profile, le texte de loi risque fort de rester dans les tiroirs. Pendant ce temps, beaucoup de Français vont en Suisse ou en Belgique, où le suicide assisté est autorisé. Et notamment les habitants du nord de la France, frontaliers avec la Belgique. Les explications de Lise Verbeck.
Entre 80 et 100, c'est le nombre de personnes dans le Nord-Pas-de-Calais qui se renseignent chaque année sur l'euthanasie en Belgique. Mais pour la section locale de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ce chiffre est sous-estimé car parmi les Français vivant à proximité de la frontière, beaucoup prennent contact directement avec les médecins belges. La loi française qui donne droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès ne s'adresse pour l'heure qu'aux malades dont le pronostic vital est engagé à court terme. Or, tous ceux qui souffrent de sclérose en plaques, de Parkinson, d'Alzheimer ou de handicaps multiples, des personnes qui se savent condamnées mais qui ont encore des années à vivre, ne rentrent pas dans les critères de la loi française. Leur pronostic vital n'étant pas engagé à court terme, elles ne peuvent pas bénéficier d'une sédation profonde selon la loi actuelle. Pour l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, il est plus que temps de légiférer sur la fin de vie en France. La DMD dénonce une hypocrisie et un paradoxe. Les malades nordistes qui vont consulter un médecin belge sont remboursés par la Sécurité sociale française. Pour ces défenseurs du droit à mourir dans la dignité, c'est une question de santé publique. Un peu comme dans les années 70 et l'interruption volontaire de grossesse. Les femmes allaient à l'étranger pour se faire avorter ou prenaient de gros risques en le faisant en France, tout comme actuellement certaines personnes qui commandent des produits sur Internet dont la composition n'est pas connue pour se suicider sans aide médicale. Mais le combat en faveur de la fin de vie gagne du terrain car il y a eu plus de 270 députés de tous bords politiques qui ont appelé à voter sur ce sujet. All right.
Peut-on faire tout dire à l'histoire en France alors que la campagne présidentielle bat son plein? La question s'est de nouveau retrouvée propulsée dans l'actualité. Mais cette tentation pour la réécriture de l'histoire par certains hommes politiques n'est pas une spécificité française. Qu'en est-il ailleurs sur le continent? C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Il y a l'histoire, la grande et les histoires. J'aime les deux. L'histoire, je l'ai étudiée, je lis des livres d'historiens, j'écoute des émissions de radio sur toutes les périodes. Et j'adore les histoires, les vraies, les fausses, les romans, les séries, les feuilletons, les frères Grimm et Pierre Bellemare. L'histoire est la production du travail des chercheurs, avec la construction d'un consensus scientifique. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Il y a des débats, des polémiques, mais aussi des règles. N'est pas historien qui veut. Du côté des histoires, en revanche, tout est permis. En ce moment, la confusion est totale entre les deux. Prenez Marine Le Pen. Il y a 2 semaines, la candidate du Rassemblement national était à Bayeux pour saluer la mémoire du général de Gaulle.
Les exigences d'un grand peuple sont à l'échelle de ses malheurs, écrivait le général de Gaulle dans ses mémoires.
Les sifflets que vous entendez derrière veulent peut-être rappeler d'où vient le Rassemblement national. C'est l'héritier du Front national, parti profondément anti-gaulliste. Ses fondateurs sont des sympathisants de Vichy et ils n'ont jamais pardonné à De Gaulle d'avoir lâché les Français d'Algérie. Ces manipulations sont fréquentes en politique. Silvio Berlusconi, en 2003, donnait une interview à la presse anglaise. elle fit immédiatement l'ouverture des journaux télévisés.
Mussolini n'a jamais tué personne. Mussolini envoyait les gens en vacances à l'étranger. Cette déclaration sur notre histoire, sur la période la plus sombre qu'a connue l'Italie, c'est celle du président du Conseil, Silvio Berlusconi.
Depuis une vingtaine d'années, certains réécrivent l'histoire du fascisme. Pas des historiens, non, des responsables politiques, des journalistes. Une aberration pour le chercheur Carlo Greppi. Ce spécialiste de la résistance analyse le but de ce discours dans son dernier livre.
Cette rhétorique a pris de plus en plus d'importance dans l'opinion publique, avec l'objectif, évidemment, d'annuler les fautes du fascisme. À part quelques exceptions, on n'a plus aucun mal à considérer l'idée de la résistance comme une chose à condamner, à regarder avec sarcasme. La résistance est considérée comme le règne des excès, des vengeances, des questions personnelles réglées à travers l'alibi de la guerre de libération et de la guerre civile.
Tout se vaut. On renvoie dos à dos fascistes et résistants. Le vice-premier ministre Matteo Salvini pouvait même se moquer de la fête de la libération nationale il y a 2 ans.
Le 25 avril, il y aura les cortèges et les partisans et les contre-partisans et les fascistes et les communistes et les noirs et les verts et les bleus et les jaunes et les rouges. Nous sommes en 2019. Le derby entre fascistes et communistes ne m'intéresse pas. C'est le futur qui m'intéresse.
Résumer la Seconde Guerre mondiale à un derby, comme en foot, c'est osé ou stupide. On n'a pas fini de raconter des histoires sur l'histoire. I said emotional content, not
anger. Et en parlant d'histoire, cette année, l'archéologue lituanienne Marija Gimbutienė aurait eu 100 ans. Peu connue du grand public, cette chercheuse a révélé l'existence d'une vieille civilisation européenne fondée sur le matriarcat. Pour la première fois, les Lituaniens ont l'occasion de la découvrir au Musée national de Vilnius. Visite avec notre correspondante Marielle Vituro.
Les déesses et les guerriers. Il y a 6000 ans, une société dominée par les femmes est anéantie par l'arrivée des Kourganes, une tribu de nomades guerriers qui s'est imposée jusqu'à nos jours. Ce sont les deux théories de l'archéologue lituanienne développées vers 1960. La quantité importante de figurines de femmes trouvées lors de fouilles en Grèce, en Italie ou dans l'ex-Yougoslavie en atteste. Gabriele Gudaitene, archéologue et commissaire de l'exposition, les décrit.
On ne voit pas de simples figurines de femmes. On voit une mère allaitant son enfant déjà grand, comme l'a fait remarquer un visiteur. Les figurines montrent certaines déformations du crâne, la présence de boucles d'oreilles ou de coiffures particulières. Elles avaient des connaissances ethnologiques sur les divinités féminines. Elle a considéré ça comme un phénomène complexe. Elle a étudié le résultat de très nombreuses fouilles réalisées par d'autres et a élaboré sa théorie.
Cette culture a survécu pendant 10 000 ans, ce qui fait la particularité de Marija Gimbutienė, spécialiste de l'âge de pierre, et sa méthode de travail. La commissaire de l'exposition l'a décrit.
C'est ce qui lui a donné une longueur d'avance. Elle a développé l'archéomythologie, car elle a aussi utilisé les récits mythologiques connus. Elle a été l'une des premières à chercher à comprendre ce qui se cache derrière le système des divinités. Et c'est toute une organisation de la société qui se reflète dans les récits mythologiques que nous connaissons.
Méprisée par ses pairs lors de l'apparition de ses travaux dans les années 70, les avancées actuelles de la science lui ont finalement donné raison, Gabriele Gudaitene.
Le séquençage de l'ADN a permis de confirmer les conclusions de ses études des tumulus funéraires. En étudiant leur emplacement, le moment de leur apparition, leur contenu, elle avait déjà pu constater l'apparition d'une nouvelle civilisation en Europe.
Pour les mouvements féministes et écologiques des années 70, ces travaux sont une source d'inspiration. L'exposition à Vilnius présente les œuvres de quelques artistes contemporaines, toujours inspirées par l'archéologue. Le destin de Marija Gimbutienė suit le destin de la Lituanie. C'est là qu'elle a commencé ses études en ethnologie, avant de devoir fuir l'avancée soviétique au moment de la Seconde Guerre mondiale. Réfugiée aux États-Unis, elle a mené toute sa carrière là-bas, et pour son centenaire, elle accède enfin à la notoriété dans son pays.
Ouais.
C'est une petite révolution en Irlande. Pour la première fois, le titre de Miss Irlande a été remis à une jeune femme noire. Née en Afrique du Sud et arrivée sur l'île à l'âge de 8 ans, Pamela Ouba est bien déterminée à utiliser ce titre pour donner de la visibilité à une minorité très peu représentée dans le pays. Son portrait par notre correspondante Emeline Vin.
Pour concourir à Miss Irlande, la nationalité est obligatoire. Mais Pamela Ouba n'est pas née irlandaise. Originaire d'Afrique du Sud, elle est arrivée à 7 ans sur l'île. Une nouvelle vie, pas aussi facile qu'elle et ses trois frères et sœurs l'espéraient.
Ma famille est tombée dans une mauvaise passe en Afrique du Sud et ma mère a pris la décision difficile de partir en Irlande. Elle ne se doutait pas qu'en demandant l'asile, on lui interdirait de chercher du travail. Il ne lui restait presque plus d'argent.
S'en suivent 10 ans dans un centre d'hébergement où les demandeurs d'asile n'ont ni le droit de travailler ni celui de passer le permis de conduire. Au début, la famille est placée dans une caravane, puis dans une maison dans l'ouest du pays.
Nous avons eu de la chance. Vu qu'on était une famille nombreuse, nous avons eu notre propre logement. Mais j'ai pu voir ce que les autres devaient endurer. Beaucoup sont placés dans des logements partagés avec des étrangers. Mais c'est vraiment une communauté hermétique. Vous êtes séparés du reste de la société. Quand vous grandissez dans ce genre d'endroit, vous avez honte de là où vous habitez.
Where your home was. Naturalisée à 19 ans, Pamela Ouba s'empresse de souligner sa reconnaissance à l'État pour lui avoir fourni un toit, mais elle aimerait voir une réforme de la politique d'accueil. Un peu timide, le rire nerveux, la jeune femme de 26 ans, longs cheveux lisses et maquillage léger, entend aujourd'hui mettre à profit sa récente célébrité pour sensibiliser la population au sort des minorités et donner de l'espoir.
Je veux que chacun sache que peu importe son apparence, peu importe ses origines, il ou elle a sa place ici. J'ai été demandeuse d'asile. Je veux que les enfants dans cette situation entendent qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, qu'ils doivent rester pleins d'espoir et de résilience et qu'ils vont s'en sortir.
Elle a une opportunité en or. C'est la première femme de couleur en 74 ans d'existence du concours Miss Irlande à recevoir la couronne de diamants et d'émeraudes.
Tant de femmes comme moi ne pensaient pas qu'elles pouvaient faire ça. J'ai reçu des messages me disant que j'étais inspirante. Une jeune fille m'a écrit pour me dire « Comment faire pour devenir mannequin ? Je ne pensais pas qu'il y avait de la place pour quelqu'un comme moi. »
Au-delà du mannequinat, dans un pays où 94% de la population se dit non racisée, c'est-à-dire n'appartenant à aucune minorité ethnique, Pamela Ouba, également scientifique, veut participer au changement.
Nous, les femmes noires, sommes sous-représentées dans de nombreux domaines. À la fac, je ne crois pas avoir vu une seule professeure noire ou une seule femme noire en position de pouvoir. Or, c'est compliqué de devenir ce que vous ne pouvez pas voir.
Après son couronnement, la nouvelle Miss a reçu des messages d'insultes à caractère raciste qu'elle préfère aujourd'hui oublier. Passionnée de chant, diplômée de l'université la plus prestigieuse du pays et arrivée dans le mannequinat un peu par hasard, l'analyste de laboratoire a travaillé pendant toute la pandémie à l'hôpital. Elle a décidé de faire de l'éducation la priorité de son règne.
L'école, c'était mon échappatoire quand j'étais enfant. Quitter le centre, aller à l'école, passer du bon temps avec mes copains, c'était les meilleurs moments. L'école, c'est ce qui m'a aidé à plaider notre cause et à obtenir le droit de résidence, ce qui m'a permis de connaître ce pays, de savoir ce que nous devions faire, d'aider ma mère qui parlait mal l'anglais à l'époque. Grâce à l'école, la demandeuse d'asile que j'étais est diplômée de Trinity College. Et Miss Irlande, c'est ce qui fait de vous la personne que vous êtes destinée à devenir. Ce qui vous aidera à atteindre les sommets que vous devez gravir.
Et pour aider plus d'enfants à grimper les sommets de la connaissance, elle est devenue l'ambassadrice d'une campagne de reconditionnement d'iPad qui a déjà fourni plus de 200 écoles pour faciliter l'enseignement. These are the days of the open hand. They will not be the last. Au lendemain de notre interview, Pamela Ouba s'est envolée vers Puerto Rico jusqu'à la mi-décembre pour tenter de décrocher le titre de Miss Monde. L'Irlande n'a plus été couronnée depuis 2003.
Accent d'Europe, Françoise Grelot était à la réalisation. Retrouvez-nous sur notre site internet ou via notre podcast sur votre plateforme d'écoute. À demain !